Alors, je réponds tout de suite aux questions posées, puis nous allons continuer d'entrer dans les cinq voies de saint Thomas. Premièrement, à propos de la prima via, vous avez dit que le principe de causalité était un principe de la physique de la nature. Pourquoi n'est-il pas valable en physique ? Alors, j'avais dit que tout ce qui est mu par un autre, saint Thomas l'employait dans le Contra Gentiles à la manière dont Aristote l'emploie dans les Philippiques. Mais ce qui est très intéressant, et nous allons essayer de comprendre, je ne résous pas tout de suite le problème, que saint Thomas l'emploie dans la Somme, dans une perspective que je crois différente. Alors nous essayons de le comprendre. Donc je ne résous pas du tout la question, pas valable en physique, c'était en science actuelle, tout ce qui est mu par un autre. Il suffit de regarder l'article, je ne sais pas si vous avez la référence dans « De l'être à Dieu », topic numéro 1, ou topic numéro 2, je crois, topic numéro 2. Vous avez la référence de cet article du père Dubarle, je ne l'ai pas là directement, mais je pourrais vous le donner, où le père Dubarle montre qu'en physique contemporaine, tout ce qui est mu par un autre n'est pas quelque chose d'évident. Je ne veux pas entrer dans ce point de vue-là, c'est un point de vue assez particulier. Le père Gérard Deslauriers lui-même le disait, qu'on ne peut pas l'appliquer aujourd'hui directement. Ce n'est pas une loi physique, voilà ce qu'il faut dire. C'est un principe philosophique. Alors ce qu'il faut, c'est bien distinguer la différence de la loi physique et du principe philosophique. Qu'il s'agisse d'un principe de la philosophie de la nature, qu'il s'agisse d'un principe de philosophie première, on est en face d'un principe. Un principe saisit quelque chose de premier, tandis qu'une loi ne saisit pas nécessairement quelque chose de premier. Une loi saisit une connexion nécessaire entre antérieur et postérieur. C'est donc tout à fait différent, c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Il faut essayer de saisir la différence entre la physique contemporaine et la philosophie de la nature. Je vous renvoie au degré du savoir de Maritain. Parce que Maritain touche ce point de vue-là. Je vous envoie cet article du père Dubarle, mais le père Dubarle ne donne pas de solution. C'est ce que je n'aime pas beaucoup dans cet article à cause de ça. Il montre les objections sans donner de réponse. Et le cardinal Journet disait toujours, ne donnez pas les objections sans donner les réponses, parce qu'à ce moment-là, vous n'aidez pas. Vous favorisez les difficultés. Et c'est très vrai. Montrer les difficultés sans donner la réponse, c'est un petit peu dangereux. Il faut montrer la solution. Alors, le père Dubarle, dans son article sur à propos de la causalité d'une façon générale, mais il parle justement de ce principe, tout ce qui est mu par un autre. Ce principe, tout ce qui est mu par un autre, est un principe philosophique. C'est facile de le comprendre, du reste, nous allons le voir tout de suite. Parce que c'est à un niveau philosophique, et à un niveau philosophique, ça se comprend, alors qu'à un niveau proprement, j'allais dire, de science, c'est autre chose. Alors, nous allons tout de suite, si vous... Attendez, il y a l'autre chose. Si l'apologétique est une partie de la théologie ayant pour objet d'établir par des arguments historiques et rationnels le fait de la révélation chrétienne dont l'Église est l'organe, pourquoi est-ce un danger pour la preuve de l'existence de l'être premier et pourquoi de là est née les idéologies ? Attention, hein. Là, il y a un petit blocage de confusion. Je vous ai dit rapidement, et c'est je crois à cause de ça qu'il y a cette question, que Descartes est le premier à avoir dit « preuve de l'existence de Dieu ». Saint Thomas ne dit jamais ça. Je crois qu'il faut être sensible à cela. Saint Thomas nous montre comment l'intelligence humaine peut atteindre l'existence de l'être premier, que nous appelons Dieu. C'est très important, ce que nous appelons Dieu, que tous appellent Dieu, que les traditions religieuses appellent Dieu. Autrement dit, le mot Dieu provient des traditions religieuses. Il est bien plus ancien que la philosophie. Il faut être très attentif à cela, exactement comme l'âme. L'âme n'est pas un mot premièrement philosophique. C'est un mot qui relève de traditions religieuses. Et le philosophe l'intègre dans sa philosophie. C'est intéressant de voir comment il l'intègre. Le philosophe intègre l'âme par le point de vue de la substance, par le principe d'essayer de comprendre qu'il y a un premier dans l'ordre de la vie. Ce premier, nous l'appelons âme. Le philosophe intègre le nom Dieu en voyant qu'il existe nécessairement un être nécessaire que nous appelons Dieu. Vous voyez, c'est par le point de vue de l'être que le philosophe intègre le mot Dieu dans sa vision philosophique. Parce que le mot Dieu est un mot qui est donné par les traditions religieuses. Alors, Descartes est le premier à dire « preuve de l'existence de Dieu ». Alors, c'est dangereux, parce que Dieu, on en parle ou par les traditions religieuses, mais on n'en parle pas directement par la philosophie. Le philosophe atteint l'être premier, l'acte pur, et il dit « c'est bien Dieu ». On ne peut pas dire distinction entre le Dieu des philosophes et le Dieu des chrétiens. Ça c'est Pascal qui dit ça. On verra un tout petit peu le sophisme qu'il y a là. C'est intéressant de voir ça. Parce qu'en réalité, il n'y a pas deux dieux. Le dieu des philosophes et le dieu des chrétiens, vous comprenez? Alors lequel on va rencontrer plus tard? Si on est philosophe, on rencontrera le dieu des philosophes. Hein, et puis si on est chrétien, on rencontrera le dieu des chrétiens. Mais non, il ne peut pas y avoir deux dieux. C'est impossible. Donc il ne peut pas y avoir une opposition entre les deux. Ce qui est vrai, c'est que la foi nous donne un contact direct avec Dieu, alors que le philosophe n'atteint pas directement Dieu. Sous ce point de vue-là, c'est très vrai. Mais alors, ne disons pas distinction du Dieu des philosophes et du Dieu chrétien. Disons manière différente de remonter à Dieu si on est croyant, si on croit aux traditions chrétiennes, aux traditions religieuses, et puis si on est philosophe. Le moyen terme est différent. Notre manière de remonter à Dieu est différente. Mais si on atteint un être absolu, que nous appelons Dieu, il ne peut pas y avoir deux êtres absolus. Oui, c'est impossible. Alors c'est pour ça que c'est intéressant de bien saisir cela. Alors si vous voulez, ce que ces questions posées, je crois, ne seront parfaitement intelligibles que lorsque nous aurons nous-mêmes bien compris la manière dont saint Thomas pose le problème dans la Somme. Alors, je vous avais dit, être très attentif, que saint Thomas pose ce problème. Dieu existe-t-il? C'est comme ça qu'il le pose, question 2. Dieu existe-t-il? Donc, au niveau de ce que représente la manière dont les créatures... En fait, Dieu est-il? An Deus sit. Est-ce que Dieu existe? Quand saint Thomas se pose cette question, il la pose dans la question 2, après avoir posé deux autres questions. Est-ce que l'existence de Dieu est évidente pour nous? Est-ce que l'existence de Dieu est démontrable? Et troisièmement, est-ce que Dieu existe? Donc il faut bien comprendre que cet article 3 présuppose deux autres articles, et ces deux autres articles nous montrent bien la manière dont saint Thomas aborde ce problème, ce que je crois très important. On n'a pas fait assez attention à cela. Il faut être très attentif à cela. Saint Thomas aborde ce problème en théologien, c'est-à-dire qu'il essaie de comprendre le lien qui existe entre l'intelligence et l'exister de Dieu. comme il est théologien, il sait que l'existence existe, et il sait que Dieu existe. Mais ce qu'il veut essayer de comprendre, c'est le lien qui existe entre les deux. Est-ce que mon intelligence humaine est capable, par elle-même, en vertu tout simplement de sa capacité, de pouvoir atteindre l'existé de Dieu? Ou est-ce que l'existé de Dieu transcende complètement l'intelligence de Dieu? Et alors, ne peut être atteint que par la foi. Vous savez bien, c'est une position de certains, c'est la position du fidéisme. Ceux qui disent que seule la foi peut atteindre l'existé de Dieu. Et l'Église a condamné le fidéisme. C'est intéressant de se le rappeler. Je vous avais dit qu'un bon théologien de Rome me disait il y a quelques années 85% des professeurs de théologie d'aujourd'hui sont fidéistes. C'est grave. Parce qu'en tant que professeur de théologie, ils doivent être censés connaître que l'Église affirme l'inverse. Que des bons chrétiens ne savent pas, c'est normal. Si on leur dit, est-ce que votre intelligence est capable? Du reste, ils répondront beaucoup plus simplement que les théologiens, vous savez, avec beaucoup plus de nature. Mais oui, c'est évident qu'il existe un être premier, c'est bien évident. On ne sait pas très bien ce qu'il est, mais on sait bien qu'il existe. Mais les théologiens qui ont beaucoup réfléchi là-dessus, depuis Kant, ça c'est Kant qui fait ça, depuis Kant, ils n'osent plus affirmer que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. Ça, c'est, je crois, très important. Or, Kant, ne l'oublions pas, est sous l'influence de Luther. Alors, Luther, évidemment, l'intelligence humaine est incapable d'atteindre l'existence de Dieu, parce que l'intelligence humaine est corrompue. Donc, l'intelligence humaine ne peut pas, par elle-même, atteindre l'existence de Dieu. Alors on comprend très bien comment une philosophie qui naît à partir de Luther, dans la tradition luthérienne, n'arrive pas à dire que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. Le premier Kant le disait, mais le second, il en a eu peur. Alors ce qui m'intéresse ici, nous reverrons le problème de Kant après, ce qui m'intéresse ici, c'est d'essayer de voir comment saint Thomas, et nous l'avons vu, en regardant la manière dont saint Thomas traitait ce problème dans son commentaire des sentences, dans le DNT Saint Sia, dans le Contra Gentiles, dans le De Veritate, ou dans le De Veritate et Contra Gentiles, peu importe. Comment saint Thomas, à travers toutes ses œuvres, les grandes œuvres de saint Thomas, est toujours revenu sur ce problème. Et saint Thomas revient sur ce problème face à saint Anselme. Puisque nous avons vu la position de saint Anselme, et nous voyons que saint Thomas n'est pas d'accord avec la position de saint Anselme. Avec un très grand respect, du reste. Saint Thomas n'est pas non plus entièrement d'accord avec la position de saint Augustin, avec un très grand respect. Parce que saint Thomas est très respectueux de la tradition, et donc ne va pas attaquer directement saint Anselme en disant « il n'a rien compris ». Non, 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 il ne dira pas ça. Il dira, comme on le disait au Moyen-Âge, parce que saint Anselme fait partie d'une tradition, saint Augustin fait partie des pères de l'Église, et donc il les respecte. Mais il va nous montrer, avec une précision qui est tout à fait propre à saint Thomas, et à ce point de vue-là, cette question 2, article 3, représente dans l'histoire de l'Église quelque chose de très important. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, hein. Et c'est quelque chose de très important, parce que c'est vraiment là où saint Thomas montre, après tout un effort, toute sa vie a été pour essayer de comprendre ça. C'est pas étonnant, parce qu'on dit que le petit Thomas d'Aquin, c'est bien, quand il était tout jeune. Hein. C'est la question qu'il posait, qu'est-ce que c'est Dieu? Et c'est comme ça qu'il est entré chez les cisterciens pour étudier, qu'est-ce que c'est Dieu? Puis après, il est entré dans sa Dominique, il a rencontré Albert le Grand, et c'était sa question, qu'est-ce que c'est Dieu? Et je crois que ça a été la grande question de saint Thomas, tout le temps. La question d'un théologien, un vrai théologien, se pose tout le temps la question, qu'est-ce que c'est que Dieu? ce qu'il veut le contempler. Il attend la vision béatifique. Et il accepte d'être ici en attente sans le voir. Donc il faut bien saisir cette question de saint Thomas. C'est, voyez, impliquer un grand désir d'atteindre l'existence de Dieu. Un grand désir de voir comment l'intelligence humaine peut, au-delà des choses visibles, atteindre l'invisible et atteindre le transcendant. Il s'agit de passer le mur du son, c'est pas commode. La première chose que l'intelligence saisit, c'est les réalités visibles. Or, la plupart des gens restent en face de ces réalités visibles et ne dépassent pas ça. Alors, il s'agit de dépasser ces réalités visibles pour atteindre l'existence de Dieu. La foi le dit tout de suite. Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Quand vous dites ça, vous n'y pensez peut-être pas beaucoup, hein. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire de dire ça tout de suite, hein. On se place tout de suite dans la lumière du Dieu créateur. Ça, la foi, tout de suite, nous met dans la lumière du Dieu créateur. Mais l'intelligence humaine peut, après beaucoup de labeur, c'est un très grand effort de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine peut arriver, en mobilisant toutes ses forces, arriver à dépasser ce mur du son et atteindre la nécessité de poser l'existence de Dieu. Alors, j'avais la dernière fois, si vous vous rappelez bien, vous avez rappelé la structure logique des cinq voies. Maintenant, nous allons regarder chacune de ces voies en particulier. Essayer de comprendre ce que signifie chacune de ces voies en particulier. Et de comprendre que saint Thomas met les cinq voies ensemble dans un même article pour que nous comprenions que cette grande montée vers la découverte de l'existence de Dieu, au point de vue de l'intelligence, doit se faire en impliquant cet argument, cette démonstration a posteriori, synthétique, analogique. Elle est synthétique, il y a cinq voies, et elle est analogique, comme nous allons voir. Alors, première preuve, hein, je vous lis. La preuve de l'existence de Dieu peut être obtenue par cinq voies. La première et la plus manifeste est celle qui part de ce qui est mu. Elle se part du mouvement. Il est évident, donc point de départ, premier point, il est évident, nos sens nous l'attestent, que dans ce monde, certaines choses se meuvent, ou plus exactement, il est certain, et Sensu constate, que dans ce monde, certaines choses sont mues. Mais il faut corriger tout de suite, hein, le bon Père Sertilange, parce que quand le Père Sertilange dit que les choses se meuvent, c'est pas tout à fait ça. Parce que pour saint Thomas, se meuvent, ce n'est pas la même chose que d'être mu. Donc il faut tout de suite corriger. Hein. Si vous avez le texte du Père Sertilange, il faut le corriger. Parce que, donc, il est évident, nos sens nous l'attestent, que dans ce monde, certaines choses sont mues. Bon. Ça, c'est la constatation. Personne ne peut douter de cela. Quand vous touchez, même la table, elle est mue. Maintenant, elle est au repos, mais elle est mue, n'est-ce pas ? C'est bien. Toutes les réalités que vous touchez sont mues. Donc ça, c'est un fait. Tout le monde a l'évidence de réalités qui sont mues. Je crois que personne ne peut nier que les réalités mues, qu'il n'y a pas de réalités qui sont mues. Bon, constatation. Et c'est pour ça que saint Thomas dit la plus manifeste. Sensu constate. Je constate ça par l'expérience. Et par l'expérience, au sens fort, une expérience qui fait que l'intelligence est liée au sens externe. Alors, deuxième moment. Or, tout ce qui est mu par un autre. Corrigez encore le Père Sertilange. Parce que le Père Sertilange dit, tout ce qui se meut est mu par un autre. Il ne faut pas dire ça. Il faut dire, tout ce qui est mu par un autre. Voilà le principe. Alors, comprenons bien ce principe. Un principe, il est évident par lui-même. Donc, on ne peut pas le démontrer. Mais on peut simplement montrer qu'il est évident. Et c'est ce que fait saint Thomas. En effet, rien n'est mu qu'autant qu'il est en puissance par rapport à ce que le mouvement lui procure. Donc, tout ce qui est mu, du fait même qu'il est mu, est en puissance. Alors, c'est ça qui est intéressant à voir. Et c'est là où je vois tout de suite que je suis en philosophie et non pas en physique, science physique moderne, que je suis tout de suite au niveau même de la philosophie de la nature. Tout ce qui est mu égale être en puissance. Voyez donc que saint Thomas tout de suite éclaire le principe par la métaphysique de l'être en acte et en puissance. Vous voyez que c'est important, la métaphysique de l'être en acte et en puissance. Puisque si vous n'avez pas la métaphysique de l'être en acte et d'être en puissance, vous ne comprenez rien au cinq mouvements. Je crois que c'est suffisamment évident. Alors, tout ce qui est mu implique être en puissance. Et vous voyez pourquoi? Parce que ce qui est mu, par définition, n'est pas le même maintenant que ce qu'il sera tout à l'heure. Quand vous êtes mu, hein, quand vous dégringolez, l'escalier, bon, il y a un instant, vous êtes tout en haut, puis tout d'un coup, vous êtes en bas. Donc, et nécessairement, quand vous étiez en haut, vous êtes en puissance d'être en bas. Et vous n'êtes pas encore. Donc, tout ce qui est mu est en puissance parce qu'il est mu. S'il n'était pas en puissance, il ne pourrait pas être mu. Seul ce qui est en puissance est capable d'être mu. Ça, je crois que c'est évident. C'est pas bien difficile. Donc, rien de ce qui est mu qu'en tant qu'il est en puissance par rapport à ce que le mouvement lui procure. Au contraire, ce qui meut ne le fait qu'autant qu'il est en acte. Donc, tout ce qui est mu par un autre. Ah, l'autre. L'autre, c'est l'être en acte. C'est bien toute la métaphysique de l'être en acte et l'être en puissance. Tout ce qui est mu en tant qu'il est mu est en puissance, et tout l'autre est en acte. C'est dit par saint Thomas. Au contraire, ce qui meut ne le fait qu'autant qu'il est en acte. Car mouvoir, c'est faire passer de la puissance à l'acte. Et rien ne peut être amené à l'acte autrement que par un être en acte. Alors, le petit exemple de saint Thomas. Faisons attention aux petits exemples de saint Thomas. Les exemples de saint Thomas ne sont jamais des principes. Ce sont des petits exemples pour nous reposer imaginativement. Je dis ça, c'est parce que quelquefois on dit les exemples sont périmés. Les exemples sont périmés. Oui, il y a d'autres exemples, c'est très vrai. Mais les exemples de saint Thomas, c'est toujours des exemples de sens commun, des exemples très simples. Comme un corps chaud actuellement, tel le feu, rend chaud actuellement le bois qui auparavant était chaud en puissance. Et ainsi, le meut et l'altère. C'est bien évident que quand vous prenez une bûche et que vous le mettez dans le feu, ben la bûche, elle n'est pas encore chaude. Heureusement, parce que vous ne pourriez pas la prendre. Et puis alors, progressivement, le feu fait que cette bûche se met elle-même à brûler. Très simple comme image, hein. C'est extrêmement simple. Alors, derrière l'image, ils sont le principe. Tout ce qui est mu par un autre. Du fait même qu'il est mu, il est en puissance. Du fait même qu'il est en puissance, il ne peut pas passer par lui-même en acte. Donc il faut un autre qui soit en acte et qui le fasse passer en acte. L'exemple de la bûche. Laissez la bûche à côté du feu. Si vous ne mettez pas la bûche dans le feu, elle restera toujours sans brûler. Il faut la mettre dans le feu. Vous allez attendre une génération spontanée. En disant, moi, j'attends que la bûche brûle toute seule. Alors, à part d'être un saint capable de faire des miracles, la bûche restera indéfiniment comme ça. Tandis que si vous mettez le feu dessus, alors elle se mettra à brûler. C'est une simplicité. Il faut redevenir très simple, voyez-vous, pour saisir ça. C'est extrêmement simple. Donc, tout simplement, tout ce qui est mu par un autre. Parce que ce qui est mu est en puissance. Ce qui est en puissance ne peut passer à l'acte
que par un acte. Or, il n'est pas possible que le même être, envisagé sous le même rapport, soit à la fois en acte et en puissance. Donc saint Thomas revient là au principe de non-contradiction, en montrant que la division de l'être en acte et de l'être en puissance est une division radicale. On ne peut pas être en même temps en acte et en puissance. C'est impossible. Il ne le peut que sous des rapports divers. Par exemple, ce qui est chaud en acte ne peut être en même temps chaud en puissance. Mais il est en même temps froid en puissance. Sous des rapports différents, mais pas sous le même rapport. Donc ce qui est mu en tant qu'il est mu, est nécessairement mu par un autre. Parce que en tant qu'il est mu, il est en puissance, et donc il ne peut pas impliquer l'acte par lui-même. Alors vous voyez, il faut évidemment comprendre un tout petit peu ce point de vue, que le mouvement, c'est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Donc, du fait même qu'il est mu, il implique l'acte. Du fait même qu'il est mu, il implique la puissance. Mais la puissance qui est en lui n'explique pas l'acte qui est en lui. Il faut donc un autre qui l'actue. Et c'est pour ça que tout ce qui est mu est nécessairement mu par un autre. Donc ceci, voyez bien, ce n'est pas une preuve du principe tout ce qui est mu par un autre. Ce n'est pas une preuve. C'est simplement une explication dans la lumière verticale de la métaphysique de l'acte et de la puissance. Dans la lumière directe de l'être en acte et de l'être en puissance. Si vous illuminez le principe tout ce qui est mu par un autre, dans la lumière de la métaphysique de l'être en acte et de l'être en puissance, ça devient évident. Vous voyez donc que quand saint Thomas emploie le principe « tout ce qui est mu par un autre », il l'emploie dans la lumière métaphysique. C'est ça qu'il faut comprendre. Il l'emploie dans la lumière métaphysique, c'est dit textuellement. Si je suis honnête avec le texte, je suis obligé de me dire « tout ce qui est mu par un autre » n'a de sens pour saint Thomas qu'au niveau proprement d'une lumière métaphysique qui éclaire une réalité que je constate. La réalité que tout le monde constate. Quand je constate une réalité, je ne suis pas au niveau métaphysique. Mais quand je me sers du principe, je peux être au niveau métaphysique. Tout ce qui est mu par l'autre. Donc, je reprends. Or, il n'est pas possible que le même être, envisagé sous le même rapport, soit à la fois en acte et en puissance. Il ne le peut que sous des rapports divers. Par exemple, ce qui est chaud en acte, ne peut pas être en même temps chaud en puissance, mais il est en même temps froid en puissance. Il est donc impossible que sous le même rapport et de la même manière, quelque chose soit à la fois mouvant et mu, c'est-à-dire qu'il se meuve lui-même, c'est-à-dire qu'il soit mu lui-même. Donc, si une chose est mue, on doit dire qu'elle est mue par une autre. Il faut corriger tout le temps le perceptilange, parce qu'il met ce mot, tout le temps. Alors ça devient inintelligible. Je regrette. J'ai connu le perceptilange encore, parce qu'il a été mon professeur de théologie morale. Alors, je savais qu'au point de vue métaphysique, ce n'était pas toujours très très droit. Non, mon perceptilange. C'était un rhéteur de premier ordre. Un rhéteur extraordinaire, merveilleux. L'intérêt qu'on avait en suivant les cours du père Certinange, c'était qu'on partait dans des perspectives tout à fait différentes, puis on regardait toujours le chat qui retombait sur ses pattes. Admirablement. C'était extraordinaire, c'était merveilleux. C'était étonnant. C'était pas du tout un métaphysicien. Et on le voit là, vous voyez, parce qu'il comprendrait. Dire ému ou se meut, c'est pas la même chose. Se meut, c'est le vivant. Se meut, il se meut par lui-même, puisqu'il se meut. Donc c'est contradictoire de dire que tout ce qui est mu, tout ce qui se meut est mu par un autre. Mais là, il se meut lui-même, puisqu'autrement il ne serait pas automoteur. Si vous dites qu'une auto ne peut se mettre à marcher que si quelqu'un pousse derrière, vous rigolerez, mais non. Elle est automobile.
Donc, elle se meut elle-même, c'est évident. Autrement, elle ne serait pas automobile. Autrement, il faudrait la pousser par derrière. Alors, ça, c'est les vieux tacos. Mais c'est pas, quand ils sont en panne, alors, il faut bien saisir la différence. Donc, si une chose est mue, on doit dire qu'elle est mue par un autre ou par une autre. Bon, voilà le premier principe. Hein. Tout ce qui est mu par un autre. On l'éclaire par la métaphysique de l'être en acte et de l'être en puissance. Bon, vous verrez ça beaucoup mieux quand on verra la métaphysique de l'être en acte et de l'être en puissance. Mais pour le moment, que ce soit l'apéritif de la théologie, de la métaphysique de l'être en acte et d'être en puissance. Vous voyez l'importance, hein ? Votre métaphysique de l'être en acte et d'être en puissance ne prendra toute sa... vous permettra de comprendre... Vous voyez l'importance, hein ? Votre métaphysique de l'être en acte et d'être en puissance ne prendra toute sa... vous permettra de comprendre et de pénétrer dans cette première via. C'est important. Si vous n'avez pas la métaphysique de l'être en acte et d'être en puissance, vous ne pouvez absolument pas comprendre la prima via de Saint-Thomas. C'est quand même significatif, ça. C'est intéressant. C'est important de saisir ça. Parce que ça vous montre tout de suite qu'on est dans une lumière métaphysique. Ce n'est pas une lumière physique, c'est une lumière métaphysique, hein. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est très important. Que si ensuite, la chose qui meut, se meut à son tour, ou est mue à son tour, il faut qu'à son tour, elle soit mue par une autre, et celle-ci par une autre encore. Or, on ne peut ainsi procéder à l'infini, car il n'y aurait alors pas de moteur premier. Et il s'ensuivrait qu'il n'y aurait pas non plus d'autres moteurs, car les moteurs seconds ne meuvent que selon qu'ils sont mus par le moteur premier, comme le bâton ne meut que manié par la main. Voilà le second principe. On ne peut pas remontrer à l'infini dans l'ordre des causes. Le non processus ad infinitum. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Ça, il faut bien le saisir aussi. C'est très important. Alors c'est très difficile parce que l'imagination s'en mêle. Oui, les cauchemars, on peut remonter à l'infini. C'est comme ça que les cauchemars existent. On remonte, on remonte, on descend. Vous savez, quand on descend dans un cauchemar, on dégringole, on dégringole, on dégringole. Un accident d'auto dans un cauchemar, c'est effrayant. On dégringole, on dégringole, on dégringole. Heureusement que tout d'un coup, on se réveille. On montre bien qu'on ne peut pas procéder à l'infini, vous voyez, qu'on se réveille tout d'un coup. Parce qu'on passe de l'imaginaire au réel. Dans le réel, comprenons bien cela, dans l'imaginaire, on peut monter à l'infini. C'est le propre de l'imaginaire. Dans l'imaginaire, on peut monter à l'infini, point indéfini. Dans le réel, dans la réalité existante, vous ne pouvez pas remonter à l'infini dans le processus des causalités. Alors c'est ça qu'il faut saisir. Hein, parce que ça c'est un petit... Je crois qu'on peut dire que c'est comme un corollaire, hein, au principe de causalité. Tout ce qui est mu est mu par l'autre. Tout ce qui est mu par un autre. Je lui exprime un autre comme ça, avec un grand A. Tout ce qui est mu par un autre. Parce qu'en réalité, c'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que vous pourriez être ému par un autre, hein? Alors, l'objection, un autre. Donc, cet autre, il est mu par un autre, cet autre, il est mu par un autre, cet autre, il est mu par un autre, alors vous remontez à l'infini. Donc, ça ne prouve rien du tout. Ça t'avait dit, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causalités. Alors, est-ce que c'est un a priori? Ou est-ce que c'est une exigence, tout simplement, du principe de causalité? C'est ça qui est intéressant à voir. Est-ce que ce principe de causalité, tout ce qui est mu par un autre, exige-t-il le non processus ad infinitum, le non la non-régression à l'infini. Alors je dis que c'est le principe de causalité qui lui-même exige ça. Mais saint Thomas l'explicite en face d'un objectant. L'objectant qui pourra dire, mais c'est très bien cet autre, mais cet autre, il peut être lui-même lu par un autre. Et cet autre, il peut être lu par un autre. Et donc vous remontez à l'infini. Donc vous ne prouvez rien du tout. Vous êtes dans une série. C'est la série. Oui. Alors saint Thomas a beaucoup traité cette question-là. À la suite d'Aristote, parce que ça, le nom Progessus in infinitum, c'est un principe, du moins, c'est pas un principe, c'est un corollaire du principe de causalité qui remonte à Platon. Très curieux. Il était découvert avant la causalité. Il remonte à Platon et il a été gardé indéfiniment, même chez Occam. Extraordinaire, ça. C'est très, très curieux. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que ça enveloppe la causalité, historiquement. Le non precessus in infinitum, de fait, c'est qui a été premier et qui est resté même après qu'on a rejeté le principe de finalité. Alors, il faut essayer de comprendre comment ce non precessus in infinitum, donc on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. L'ordre des causes, vous comprenez bien, l'ordre des causes, il est là. Ici, c'est ce qui est mu, donc ce qui est mu, l'être en puissance. Ce qui est vu par un autre, mettre en acte. Il y a donc un ordre entre les deux. C'est que ce qui est en acte meut ce qui est en puissance. Et c'est cet ordre entre les deux que nous établissons. Bien, nous disons que cet ordre qui existe est un ordre déterminé. Et parce que c'est un ordre déterminé, il refuse de remonter à l'infini. Pourquoi ? Parce que si on prétendait qu'on remontait à l'infini, on supprimerait la détermination de l'ordre. Ça, c'est assez subtil à bien saisir. Mais c'est important à saisir. Et je crois que tout est là. C'est que tout ordre implique une détermination. Et donc, tout ordre implique une mesure. Si tout ordre implique une mesure et un principe, on ne peut pas remonter à l'infini. Prétendre remonter à l'infini, c'est supprimer l'ordre. Parce que c'est supprimer la détermination. Alors, c'est difficile parce que, imaginativement, nous remontons toujours à l'infini. Ça, imaginativement, nous faisons ça indéfiniment. Tous nos cauchemars, nous dit ce Seigneur, nous sommes nés dans le cauchemar. Et ça reste indéfiniment. Nous avons toujours des cauchemars. Et nous pendons à l'infini. Ça va remonter à l'infini. Mais ça, c'est imaginatif. Il n'y a aucune réalité qui remonte à l'infini. Jamais, jamais. Parce que l'ordre est déterminé. Quand saint Thomas nous dit que tout ordre implique une mesure, c'est ça, tout ordre implique une mesure. Une réalité ordonnée implique un principe. Pourquoi ? Parce que cet ordre est déterminé. S'il est déterminé, il implique nécessairement un principe. Il implique un premier et un terme, autrement il ne serait pas ordonné. Si vous supprimez le premier, et si vous supprimez le dernier, mais vous supprimez l'ordre, il n'y a plus d'ordre. Essayez de fermer, vous faites ça tous les jours quand vous ordonnez vos papiers. Il y en a un premier, puis il y en a un dernier. Il faut bien, autrement il n'y aurait pas d'ordre, s'il n'y a pas de premier et de dernier. Or, si je remonte à l'infini, je supprime le premier, parce que je peux remonter. Et je peux aller tout bon. Donc il n'y a plus de premier. Et donc vous supprimez l'ordre. Or, le principe de causalité implique un ordre. Puisqu'il implique antérieur et postérieur. Donc il implique un ordre. S'il implique un ordre, il implique une détermination. S'il implique une détermination, on ne peut pas remonter à l'infini. Oui. C'est quelque chose d'assez simple au point de vue intellectuel. Hein. Mais il faut penser. Si vous imaginez, vous tombez dedans. Il faut penser au point de vue intellectuel. Il faut penser ce que c'est que l'ordre. Une fois que vous avez pensé ce que c'est que l'ordre, alors immédiatement, vous dites, oui, c'est vrai. Tout ordre implique un premier et un dernier. C'est comme ça qu'on est ordonné. Il y a un premier et un dernier. C'est dans une procession, il y a un ordre. Il y a un premier et un dernier. S'il n'y avait pas de premier, pas de dernier, il n'y aurait pas de procession, il n'y aurait pas d'ordre. Ce serait le troupeau. Allez, pas comme je te pousse. N'importe quand. Je sais pas. Il n'y a plus d'ordre. Ça va n'importe comment. Tandis qu'il y en a un ordre, il y a un premier, un dernier. S'il y a un premier, un dernier, mais c'est impossible que ça remonte à l'infini, puisqu'il y a un premier. Le premier empêche que ça remonte à l'infini. Qui dit premier dit empêchant d'aller à l'infini. Qui dit dernier dit la même chose. C'est tout simplement ça que saint Thomas souligne. Et ça, c'est très important, que le principe de causalité, comme principe de causalité, implique un ordre entre antérieur et postérieur. Ça, je crois qu'on peut facilement le saisir. On reviendra dessus, hein. On reviendra dessus, parce que chaque fois, saint Thomas revient trois fois de suite dessus, pour qu'on saisisse mieux. Bon, alors, voyez bien, hein, parce que je veux au moins terminer la prima via. Donc, alors, voyez, l'expérience, nous constatons qu'il y a des réalités mues. Le principe, tout ce qui est mu par un autre. À côté de ce principe, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causalités. Donc, stop. Hein, c'est le stop. Tout simplement. Vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas remonter à l'infini. Donc, il n'y aurait pas de donc, hein, si on pouvait remonter à l'infini. C'est ce que dit saint Thomas. Si on remonte à l'infini, il n'y a plus de démonstration. C'est impossible. On ne peut plus rien démontrer. C'est très intéressant, je pense. Ce que le père Dubarle souligne, dans la science moderne, on peut remonter à l'infini. Donc, il n'y a plus de démonstration. La science moderne se suicide par elle-même, puisqu'on peut remonter à l'infini. Ça, là, il n'y avait pas pensé. Il n'y a plus de démonstration. Si vous pouvez remonter à l'infini, il n'y a plus de démonstration. Il n'y a plus d'ordre. Est-ce qu'une science n'est pas un ordre? Alors, vous dites que vous pouvez remonter à l'infini. Donc, vous suicidez la démonstration. Vous êtes uniquement devant un tas de cailloux auxquels vous ajoutez, vous ajoutez, vous ajoutez, vous ajoutez indéfiniment. Il n'y a plus d'ordre. Donc il n'y a plus d'intelligibilité. C'est terrible ça au fond. C'est très intéressant de voir ça. Donc, il est nécessaire de parvenir à un moteur premier. Voilà la nécessité qu'il faut voir. Il est nécessaire de parvenir à un premier moteur. Ergo, necesses devenire ad aliquod primum movans. Un premier moteur qui n'est mu par aucun. Et cela, tous le pensent Dieu. Intelligum Deum. Donc vous avez bien ce que je vous avais dit la dernière fois, mais il faut bien le saisir ici. Vous avez donc bien. Premier point de départ, l'expérience. Alors c'est très important. Hein? L'expérience touche le jugement d'existence. Ceci est. Ce qui est mu existe. Donc c'est l'exister. Deuxièmement, le principe de causalité, tout ce qui est mu est par un autre. Donc on montre la priorité de l'autre. Troisièmement, le corollaire. On ne peut pas remonter à l'infini. Donc c'est négatif. On met un obstacle, on met un arrêt. Quatrièmement, donc, il est nécessaire d'arriver à un premier movens. Un premier moteur. Un premier movens. Un movens qui est absolu. Un movens absolu. Un movens premier. Qui soit premier au sens très fort. Puisqu'il n'est pas mu par un autre. Donc il est movens. Un movens qui soit absolument movens. Donc, puisque tout movens est en acte, un movens qui soit acte pur, c'est dit textuellement dans un devoir, un movens qui est acte pur, puisque le movens implique être en acte. Et un movens qui n'est mu par aucun, donc c'est un movens dans lequel il n'y a pas de potentialité. Donc, un movens qui soit acte pur. Alors, l'acte pur, ah oui, l'acte pur c'est pur. Il n'y a pas d'autre acte pur que Dieu. Pas possible. L'acte pur, c'est Dieu. Il ne peut pas être autre chose. Vous voyez, voilà les cinq moments. Vous voyez, c'est une démonstration très particulière. Hein? Et saint Thomas avertit que c'est une démonstration imparfaite. Imparfaite, c'est très vrai. Elle ne satisfait pas totalement notre intelligence. présume. On dit, ah oh oui, c'est une évidence parfaite. Non, non, elle ne satisfait pas totalement notre intelligence. C'est une démonstration imparfaite. Ce n'est pas une démonstration parfaite. C'est une démonstration imparfaite parce qu'elle est a posteriori, et puis elle est analogique. Vous comprenez bien, elle est terriblement analogique. Hein. Vous passez de la constatation d'une réalité limitée à une réalité illimitée. C'est ça que Kant ne peut pas supporter. Vous passez d'une réalité conditionnée à l'inconditionné. Comment vous pouvez faire ça? Si vous restez au niveau de la manière dont on saisit une chose, vous ne pouvez pas. Si vous saisissez à l'intérieur de cette réalité limitée, elle existe, elle est. Tout en étant limitée, elle existe. Ah, alors il y a une possibilité, puisque cette réalité aussi, elle existe. C'est par l'exister qu'il y a une continuité. Et c'est uniquement par l'exister. Par l'exister, il y a une continuité. Alors Kant, lui, regardant uniquement le conditionnement. Alors du côté du conditionnement, c'est évident, ça semble complètement absurde. Vous passez du conditionné à l'inconditionné. Vous ne pouvez pas, du conditionné, poser l'inconditionné. Et nous sommes tous d'accord là-dessus. Je ne peux jamais, à partir du limité, affirmer l'illimité. Puisque le limité, par définition, ne contient pas l'illimité. Mais si cette réalité limitée existe, elle me permet peut-être d'être un point de départ pour affirmer une autre réalité qui existe, qui elle est illimitée. Donc c'est du côté de l'exister qu'il y a une continuité. Continuité dans le raisonnement. Et c'est pour ça que je dis bien que c'est un raisonnement analogique. Parce qu'il est au niveau de l'être. Il est au niveau de l'être, je continue, pour que vous compreniez bien. Il est au niveau de l'être. Et il est au niveau de l'être en acte et en puissance. Ah, je crois que c'est ça qui est clair. C'est au niveau de l'être en acte et en puissance. Puisque cette réalité que j'expérimente au point de départ, elle est limitée, elle est en puissance. Saint Thomas le dit textuellement, puisqu'elle est mue. Je constate des réalités qui sont mues. Tout ce qui est mu est en puissance. Donc cette réalité que je constate au point de départ, elle est en puissance. Cette réalité que je constate au terme, acte pur. Vous voyez l'opposition entre les deux. Donc je suis en présence de ce passage d'une réalité qui est en puissance, qui elle-même témoigne de l'existence d'une réalité qui est acte pur. Alors ça devient très beau au point de vue métaphysique. Du fait même que vous existez, vous témoignez d'une réalité absolue dans l'ordre de l'existence. Tout être qui est mu témoigne d'une réalité absolue dans l'ordre de l'être. Ça, c'est l'argument métaphysique. Évidemment, c'est le fil à plomb. C'est vertical, c'est pas du tout horizontal, hein, pas du tout comme argument. Alors celui qui sont dans l'horizontalisme perpétuel ne peuvent absolument rien comprendre. Je reprends pour que vous compreniez bien, parce que c'est ça qu'il faut saisir. Ça c'est beau, au point de vue proprement métaphysique, hein, de comprendre qu'une réalité qui est en mouvement, du fait même qu'elle existe, appelle l'être absolument premier. Et ça, c'est le propre de l'ordre de l'exister. L'exister télescope tous les intermédiaires. Les intermédiaires sont du côté du conditionnement. C'est vrai, les intermédiaires sont du côté du conditionnement. Le général Piu-Piu, c'est du ordre du conditionnement, n'est-ce pas ? Ça, c'est le conditionnement. C'est l'ordre, la hiérarchie, c'est le conditionnement. Au plan métaphysique, on télescope tout ça. On regarde le point de vue direct du fait même qu'elle existe. Même si elle existe en puissance, même si elle existe limitée, même si elle existe dans sa précarité d'être en mouvement, cette réalité témoigne par elle-même de l'exister d'une réalité première, sans aucun intermédiaire. Ça, c'est beau. Au point de vue métaphysique, c'est extraordinaire. Alors, j'explique, vous allez tout soit saisir, vous allez saisir, et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que j'essaie de comprendre, quand je constate qu'une réalité émue. Cette réalité existe. C'est pour ça le jugement d'existence. Hein. Elle existe, et elle est émue. Je vois qu'une réalité qui est émue et qui existe est toujours complexe dans son conditionnement. Elle implique acte et puissance. C'est bien évident. Tout ce qui est ému implique acte et puissance. Bon. Du fait même qu'elle est acte et puissance, elle n'est pas première. Ça, je peux le dire tout de suite. Du fait même que cette réalité que je constate est acte et puissance, elle n'est pas première. Si elle n'est pas première, elle dépend d'un autre. Forcément, parce qu'elle n'est pas première. Métaphysiquement, tout ce qui est mu par un autre. Je crois qu'on peut tous comprendre ça. Si vous n'êtes pas premier, vous dépendez d'un autre. Mais il n'y a pas beaucoup de choses dans lesquelles vous ne dépendez pas de quelqu'un d'autre. C'est dans l'ordre où vous êtes premier. N'est-ce pas ? Il n'y a pas beaucoup de choses. Dans quel domaine êtes-vous premier ? C'est une très bonne leçon d'humilité. C'est extraordinaire, ça. Dans quel domaine êtes-vous premier ? Cherchez bien. Pas beaucoup de domaines. Hein. Pas beaucoup de domaines dans lesquels on est premier. C'est vrai, il faut le reconnaître. Donc, si je ne suis pas premier, je suis second. Donc, je suis relatif. Je dépends d'un autre. Tout ce qui est mu, du fait même qu'il est mu, est complexe et dépend d'un autre. Alors, l'autre, c'est ça qui est important. L'autre, c'est quoi ? L'autre, c'est le primum vins. Immédiatement, c'est le primum vins. Et saint Thomas nous l'indique, puisqu'il nous montre que tout ce qui est mu, du fait même qu'il est mu, est en puissance, et que l'autre, il est en acte. Donc, c'est bien la métaphysique de l'être en puissance et d'être en acte. Or, ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Et la dépendance de ce qui est en puissance à l'égard de ce qui est en acte est une dépendance qui est au niveau de la causalité finale. Et non pas une dépendance au niveau de la causalité efficiente. Et c'est ça que saint Thomas veut nous faire comprendre. Ce qui n'a pas été compris, il faut bien le dire. Occam a tout de suite interprété par le point de vue de la causalité efficiente. Et on a continué. Suarez fait ça et le père Garrigou-Lagrange fait de même. Avec tout le respect qu'on lui doit. Il n'a pas vu que saint Thomas montre dans le contrat gentilet, c'est la causalité efficiente. Dans la somme, saint Thomas ne met plus aucune référence à Aristote. C'est très curieux. Plus aucune référence. Parce qu'il transforme l'argument de la physique en un argument métaphysique. Et c'est expliqué par le point de vue de l'être en acte et l'être en puissance. Or, tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Tout ce qui est mu dépend d'un autre. Tout ce qui est en puissance dépend d'un acte. La dépendance de ce qui est en puissance à l'égard de l'acte, puisque l'acte, au niveau de l'être, est fin, on peut donc dire que c'est une dépendance dans l'ordre de la causalité finale. Donc, on peut dire que l'autre, ce n'est pas la cause efficiente, c'est la cause finale. Et c'est bien ce que saint Thomas montre, puisqu'il aboutit au primum movens. Or, le primum movens est avant tout cause finale. Il meut sans être mu. C'est ce qu'Aristote lui-même dit. Il meut sans être mu, donc c'est la cause finale. Donc l'autre, c'est bien la cause finale. Et c'est ce qui explique, vous voyez, ce caractère vertical de cette argumentation. Alors, très simple à comprendre. Hein. Je donne un petit exemple pour finir. Hein. Tout ce qui est mu par un autre. C'est mu, ce petit livre. Hein. Ce petit livre, pas le petit livre de l'Apocalypse. Tout ce qui est mu par un autre. Hein. Il est mu par ma main, causalité efficiente. Puis maintenant, vous le lâchez. Il est mu par un autre. Ah, l'autre, c'est quoi ? Causalité finale.